À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est bien la journée internationale des malades et ça coïncide fort bien avec la fête de Notre-Dame de Lourdes et la question qu'on peut se poser quand on parle de Lourdes et on se la pose de plus en plus avec le doute, l'esprit matérialiste qui règne de plus en plus dans notre société. S'il y a vraiment des miracles certifiés, là où se rendent chaque année, n'est-ce pas, des millions de pèlerins de toutes les parties du monde, est-ce qu'il y a vraiment des miracles à Lourdes? Est-ce que vraiment les gens qui vont là ne sont pas de pauvres naïfs qui se font prendre alors même qu'aujourd'hui on célèbre le 140e anniversaire des apparitions de Lourdes, hein? C'est arrivé en 1858, et nous sommes, comme vous savez, évidemment, en 1998, ça fait donc 140 ans. 140 ans qu'il se passe là des choses absolument étonnantes, et ce qui se passe surtout, ce sont les conversions intérieures. Ce sont les gens qui, aspirant à une guérison physique, obtiennent une guérison intérieure, parce que le contact avec toute cette foule qui souffre, surtout avec tout ce monde si généreux et si attentif à leurs souffrances, que finalement, ces gens-là restent absolument émerveillés et touchés jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes, parce qu'ils sentent tout à coup qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils font partie d'un ensemble de croyants qui espèrent en Dieu, qui croient en lui et qui croient surtout en son amour. En son amour. C'est fondamental. S'il y a des miracles à Lourdes, on peut se poser la question, mais dès le début, à la grotte de Massabielle, l'eau a commencé à sourdre sous la main de Sainte Bernadette Soubirou, la voyante. Elle n'a pas expliqué son geste qu'en répétant les paroles qu'elle avait reçues de cette apparition. Elle ne l'appelait pas encore la Vierge. Elle dit, l'apparition lui avait dit, allez boire à la fontaine et vous y lavez. Ce que la Sainte Vierge a dit semble ne s'adresser qu'à Bernadette, et pourtant, dès le lendemain, ceux qui accompagnent Bernadette à la grotte, ils boivent de cette eau. Une eau étrange. Ils font avec elle des ablutions. Et cette eau est une des plus miraculeuses de la terre. Je vous raconterai tout à l'heure des choses. Ils vont recommencer chaque fois que Bernadette va venir à la grotte. Ils vont continuer à faire ça. Mais Bernadette n'a pas parlé de miracle. Elle n'a même pas demandé qu'on imite ses gestes. Puis dans la première quinzaine de mars 1858... Il y a 140 ans, un événement inattendu se produit. Tout le monde à Lourdes connaît M. Louis Bourriette. 20 ans plus tôt, il était carrier. C'est le premier grand miracle. Il travaillait dans une carrière. Il y a eu une explosion. Une mine a tué son frère. Puis Louis Bourriette, lui, a perdu totalement la vision de l'œil droit. L'œil gauche gardait une visibilité qui allait en s'affaiblissant. Alors, M. Bourriette éprouve des douleurs épouvantables dans les yeux. Un médecin, le docteur Dozou, le soigne. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'atténuer la souffrance. Et quelques jours après l'apparition de la source, là, M. Bourriette, envoie sa petite fille de 6 ans chercher un peu de cette terre humide où Bernadette s'est lavée. Hein? Il veut avoir de l'eau. Quand elle revient, il applique cet étrange remède sur ses yeux. C'est un peu comme dans l'Évangile, hein? Jésus qui met de sa salive sur des yeux, comme ça. Alors, il prie. Il prie, c'est très important, M. Bourriette prie. Quand il rouvre les yeux, il voit. Instantanément. Il se précipite chez le docteur, il lui annonce qu'il est guéri. Le docteur lui dit, c'est impossible. Parce que les gouttes prescrites ne peuvent qu'empêcher de souffrir, et Bourriette explique ce qu'il a fait. Le docteur pense que ça peut être le fruit passager, là, qui a pu résulter de la pression de la main sur les yeux. Alors, pour convaincre son malade qu'il n'a pas vraiment recouvré la vue, le docteur lui demande de lire ce qu'il a écrit lui-même sur le mur, sur un texte, sur un papier. Bourriette est atteint d'une amaurose incurable, il ne guérira jamais. C'est ça le texte que le médecin lui fait lire. Mais Bourriette lit cette phrase qui est désormais fausse. Ce qui était médicalement impossible s'est produit. Et d'autres guérisons vont suivre. Il s'en produit toujours. Mais je vous rappelle qu'il se produit surtout des guérisons intérieures. Vous direz, ce sont des adultes qui sont auto-suggestionnés. Mais je vous raconte en passant, très brièvement, le fait d'Yvonne au maître. C'est la fille d'un médecin. Elle n'a pas 2 ans, elle a 23 mois. C'est arrivé il y a 100 ans, en 1896, le 26 juin. Elle est guérie instantanément à la piscine. Elle est guérie de quoi, cette petite Yvonne au maître? Mais son père l'a plongée dans l'eau glacée, là, de la source, malgré ses cris. Et le bain n'est pas de son goût, elle aime pas ça, elle hurle. Et cependant, elle en ressort à jamais délivrée de quoi? D'un double pied beau, vainement opéré 2 fois. Qu'est-ce que c'est que des pieds beaux? Il y a peut-être des jeunes qui se demandent ce que c'est. On voit plus ça aujourd'hui. Les médecins, les chirurgiens opèrent ça. Ce sont des pieds qui sont complètement retournés à l'intérieur et l'enfant ne peut, pour ainsi dire, pas marcher. Il s'enfarge. Surtout quand c'est un double pied beau, que les deux pieds sont complètement tournés vers l'intérieur. Je vous rappelle, elle a 23 mois. Elle a même pas 2 ans. Son père, médecin, conclut le récit écrit de la maladie, de la guérison. Il écrit ça le lendemain, le 27 juin 1896. Il dit « Tout effort de la volonté est absent ». C'est évident, mais comme il veut dire, ma fille, elle peut pas avoir eu la volonté de se guérir. C'est pas de l'autosuggestion. Tout effort de la volonté est absent. La suggestion est impossible, écrit-il. Il ajoute la foi, imagination. Tout est supprimé, parce qu'elle n'a pas la foi, la petite, elle n'a pas d'imagination dans ce sens-là. Toutes les théories suggestives sont ici en défaut, ajoute le docteur au maître. À cet âge, un enfant ne peut être hypnotisé. Il ne reste donc, qu'à s'incliner devant l'évidence des faits sans vouloir ni pouvoir les expliquer. Il me semble que c'est concluant. Il y a là un exemple des innombrables miracles qui se voient encore à Lourdes, qui sont la manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste occasionnellement, pour nous rappeler qu'au fond, nous vivons dans un ensemble de miracles, mais nous ne les voyons pas. Notre simple existence, notre capacité avec de la matière dont nous sommes constitués, de voir, de nous souvenir, d'avoir de la volonté, d'être capable d'aimer, d'un amour qui dure toute la vie, d'engendrer des enfants, que nous ne faisons pas. Mais puisqu'il n'appartient pas au médecin de dire si on peut parler de miracle, de Lourdes, on peut poser la question, si on veut, il y a des gens qui veulent pas que les médecins se prononcent de façon catégorique, parce qu'ils ne sont que sur le domaine de la science. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que c'est inexplicable. On peut demander à un théologien dit « ce n'est pas la seule foi ». Que la science se reconnaisse impuissante à expliquer ce qu'elle constate. La science constate des miracles, mais elle ne peut pas expliquer ça. Pourquoi est-ce à Lourdes que ces guérisons inexplicables se produisent surtout? Comment se fait-il? Oh, il y en a bien d'autres ailleurs, sur toute la surface du globe. Il y a quelque chose de commun entre toutes ces guérisons. Les maladies étaient différentes, les remèdes employés auparavant étaient les plus variés, mais toutes ces guérisons se produisent à Lourdes. Pourquoi, dans cette ville? Ceux qui ont été guéris, eux, ils le savent. Ils n'ont pas attendu que les médecins du bureau des constatations se prononcent, car il y a un bureau de constatation des miracles à Lourdes, un bureau très savant, très sérieux, très bien fait, admiré par les athées, les juifs, les protestants, les hindous, etc., qui vont là, des médecins, des savants, et qui partagent avec les catholiques les recherches et les constatations, comme on dit, dans ce bureau des constatations. Et d'une voix unanime, les anciens malades qui sont guéris proclament quoi? La Sainte Vierge nous a guéris. Est-ce qu'ils ont tort? Sainte Bernadette, la voyante d'il y a 140 ans, qui nous a transmis le message de la Sainte Vierge, avait demandé que l'on vienne prier dans cet endroit-là. Et ces malades sont venus exprès à Lourdes, non pour voir un médecin, mais pour répondre à l'invitation de la Mère de Dieu, la Sainte Vierge. Ils ont prié, ils se sont baignés dans la piscine, dans cette eau glacée. Ceux qui ne sont pas allés à Lourdes, vous avez peut-être vu ça dans des films. Hein? Ce sont comme des petites piscines, la grandeur un peu plus grande qu'un corps humain. Là, puis on trempe, des gens se tiennent de chaque côté de cette petite piscine, puis trempent les corps dans cette eau glacée. Et c'est là, au cours de la procession de ce sacrement, qu'ils ont été guéris. Là, dans la piscine, ou bien devant ce sacrement, comme le jeune homme de 20 ans qui a été guéri instantanément devant le futur père Arrupé, 28e général des Jésuites, comme je vous l'ai raconté il y a une semaine. Et ainsi, au moment même où la science s'avoue impuissante à expliquer une guérison, tous les indices convergent pour signaler qu'une cause surnaturelle est intervenue. Et on comprend qu'un homme sensé n'hésite plus. Lourdes est un lieu de la terre où il y a des miracles. C'est le docteur Alexis Carrel, dont je vous ai déjà parlé deux fois, qui s'est converti comme ça. J'en avais parlé en particulier le 3 novembre 1995, ça fait bien longtemps, il faudrait que j'y revienne un jour. La première fois que j'en ai parlé, c'était le 8 septembre 1995. Alors les miracles de l'Évangile n'ont pas été constatés par des médecins patentés, mais aujourd'hui, on a des médecins, disons, patentés pour vérifier. Mais il n'est pas requis d'avoir suivi des grandes connaissances musicales pour constater comme le jeune Arrupé, devenu jésuite, a pu le constater. Lui, il était médecin. Il l'a constaté, mais ce n'est même pas nécessaire. C'est une invitation, au fond, à dépasser le domaine de ce qui se voit. Et Dieu nous invite, par la multiplicité et la variété des guérisons de Lourdes, pour qu'on lui rende hommage et qu'on reconnaisse, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes des miracles et que nous avons toutes les raisons de lui rendre grâce, de l'aimer et de répondre à son amour. Mais c'était pas l'opinion d'Émile Zola il y a 100 ans. Émile Zola avait écrit un livre en 1894, un livre sur Lourdes, qui était extrêmement malhonnête. Tout ça s'est produit 2 ans plus tôt, le 20 août 1892, au matin. Il y avait ce qu'on appelle le train blanc, c'est le train qui part pour Lourdes, qui entrait dans la gare de Lourdes, donc le 20 août. 92, c'est un train rempli d'espérance et peut-être un peu de désespoir. C'est le train des pèlerins, dont la plupart sont des malades au dernier degré, sont abandonnés par les médecins, abandonnés par la médecine, qui ne placent plus leurs espoirs qu'en Notre-Dame de Lourdes et à quelques compartiments d'intervalle, il y a deux femmes. Deux femmes qui se meurent, elles sont minées par la tuberculose. Elles prient chacune de leur côté. L'une, c'est Marie Lebranchu. C'est un nom très connu dans le monde des miracles de Lourdes. Et l'autre, c'est Marie Lemarchand. Elles ont des noms qui se ressemblent. Et Marie Lebranchu, Marie Lemarchand. Dans un autre compartiment, vous savez, les trains en France, il y a des compartiments. Puis un grand corridor là, qui longe tous ces compartiments. Il y a un homme illustre qui est un très grand écrivain, vous avez deviné, un homme de génie, pour tout dire, selon les gens de l'époque, qui a pris place, c'est Émile Zola. Il y a 5 volumes d'Émile Zola dans la collection de la Pléiade. J'ai fouillé dans mes 5 volumes, je n'ai pas trouvé Lourdes. Il y a tous les autres, mais il n'y a pas Lourdes. Car il a publié, comme je vous ai dit, ce livre sur Lourdes en 2 ans après ce voyage à Lourdes. Et les deux femmes, les deux maris, se rendent à Lourdes dans un dernier espoir. Zola veut recueillir des documents, des preuves solides pour construire l'une de ses œuvres qu'il aurait voulu parmi les plus importantes, dans son livre intitulé Lourdes, où il entend démasquer l'imposture des miracles de la grotte de Bernadette. Il veut prouver que des femmes malades comme Marie Lebranchu puis Marie Lemarchand ne peuvent pas guérir par la seule vertu de l'eau de la source. La foi, sans doute, des deux femmes, va leur apporter ce qu'elles vont chercher à Lourdes, c'est la guérison. Mais la mauvaise foi d'Émile Zola, ça lui permettra que de bâtir un livre indigne, vraiment épouvantable. Tellement indigne même que ses admirateurs, puis des confrères écrivains qui, depuis sa mort, se sont penchés sur son œuvre, le passe sous silence, et c'est peut-être pour ça qu'il n'est même pas dans la Pléiade. La Pléiade, vous connaissez ça, c'est une grande collection de livres, genre comme des Bibles. Il y en a des centaines et des centaines, j'en ai beaucoup ici. On y passe des heures, mais on peut pas tout lire ça avant de mourir, c'est le drame, la vie est trop courte. Alors que nous, que vous soyez, ce soit bien entendu entre nous, là, que je ne veux pas nécessairement attaquer Zola, c'est pas mon, aucun plaisir à ça, hein. Il a eu la chance assez rare d'assister à deux guérisons miraculeuses. Il les a réfutées. Il les a réfutées, mais il en a donné des versions tellement absurdes et odieuses qu'il n'a pas hésité à se rendre même chez l'une des deux miraculées guéries en fait, et puis qu'il avait fait mourir dans son livre pour lui proposer, compte de l'argent, d'aller vivre en Belgique, de disparaître de Paris, où elle était censée être morte. Elle travaillait au Bon Marché, vous savez, le grand magasin, le Bon Marché à Paris. Parce qu'il voulait que la vérité de son livre soit claire, c'est qu'elle est morte et qu'elle était partie. Était dans l'au-delà. C'est un exposé un peu brutal du cas Zola que je vous fais. Mais de toute façon, c'est terrible de penser que cet homme a pu fausser la vérité comme ça. Quand il a appris comment Marie le Marchand et Marie le Branchu ont guéri à Lourdes, avec pour témoin de nombreux docteurs et des journalistes qui bourdonnaient autour de lui-même, il y était là, parce qu'Émile Zola est resté à Lourdes une quinzaine de jours, pas tout à fait d'ailleurs, mais et c'est un semblant d'excuse, il n'est resté que 2 heures dans le bureau des constatations médicales. Il y avait là le fameux docteur Boissary, qui a beaucoup écrit sur Lourdes, qui était alors président du bureau des constatations. Il avait longuement hésité avant de recevoir Zola, mais comme il l'expliquait par la suite dans un ouvrage, il a dû finalement céder à la pression de l'opinion. Mais allons voir ce qui s'est passé avec ces deux femmes qui ont été miraculées de façon absolument merveilleuse. C'est un phénomène qui dépasse presque tout entendement. Je procède donc. Bon, je trouve l'endroit. La première, Marie Le Marchand, est atteinte d'un lupus tuberculeux au visage. C'est une plaie abominable, c'est hideux. Ça lui couvre toute la joue droite, les lèvres, une partie de la bouche. Il y a une plaie du même genre au mollet gauche. Ses poumons sont atteints au sommet. Or, Marie Le Marchand crache le sang, elle tousse sans arrêt depuis 3 mois, et chaque soir, la fièvre la ronge. Lorsqu'elle arrive à Lourdes pour implorer la miséricorde de Dieu, elle est dans un état d'épuisement indescriptible et le spectacle qu'elle offre est à peine soutenable. Les brancardiers eux-mêmes évitent de regarder son visage et se détournent. C'est instinctif, c'est difficile de regarder quelqu'un qui est abominablement laid et hideux par la maladie. C'est difficile. C'est triste, on devrait pas être comme ça, mais on l'est. Et Émile Zola l'a vu, lui, dans le train. Il en a fait une description que les témoins ont qualifié d'exact. Voici ce qu'il écrit dans son livre. « Avec son lupus, qui avait envahi le nez et la bouche, une ulcération latente s'étalant sans cesse sous les croûtes et dévorant les muqueuses, la tête allongée en museau de chien, avec ses cheveux rudes et ses gros yeux ronds, elle était devenue affreuse. » C'est Zola qui écrit ça. Il l'a vu. Il ajoute les cartilages du nez se trouvaient presque mangés. Bon, j'arrête. C'est trop. Ça continue comme ça. C'est une description terrible. Terrible. Mais Zola ajoute un peu plus loin. Il l'a baptisé Élise Rouquet dans son roman, en train de boire avec sa tête de chien au museau rongé, qui tendait la fente oblique de sa plaie, la langue sortie en lapant. Les brocs et les bidons hésitaient à se remplir à cette fontaine où elle avait bu. Et la voyant, une même pensée montant de toutes ses âmes gonflées d'espérance, « Ah, Sainte Vierge, Vierge puissante, quel miracle si un pareil mal guérissait !» Et c'est ce qui va arriver. Marie Le Marchand est arrivée à Lourdes, un objet de répulsion, puis le 21 août, un dimanche, elle demande au bureau médical d'être plongée aux piscines Elle ne prend qu'un seul bain dont elle ressort complètement guérie. Il y a ce miracle un témoin d'une importance capitale, c'est le docteur Dombre, D'HOMBRES, qui a fait des déclarations claires. Je me souviens très bien avoir vu Marie le Marchand devant les piscines. Je fus frappé par son aspect particulièrement repoussant. Il raconte le miracle. Je vous expliquais un peu ce qui s'est passé et je vous racontais l'étrange miracle survenu à Marie le Marchand. Il y a déjà un peu plus de 100 ans, en présence d'Émile Zola, qui a écrit un livre, Lourde, où il raconte tout le contraire de ce qu'il a vu, cet homme étant extrêmement malhonnête. Étrange chose. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas voir et font-ils tout? Son livre s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Je vous rapportais ce que le docteur Dombre, un médecin très important, du bureau des constatations à Lourdes, qui dit « Je me souviens très bien avoir vu Marie le Marchand devant les piscines, elle attendait son tour pour prendre son bain, et je fus frappé par son aspect particulièrement repoussant. Les deux joues, la partie inférieure du nez, la lèvre supérieure étaient recouvertes d'un ulcère de nature tuberculeuse et sécrétant un pus très abondant. Les linges qui recouvraient cette figure étaient tout maculés de pus. Au sortir de la piscine, je me rendis immédiatement à l'hôpital auprès de cette femme et je la reconnus fort bien, quoique l'aspect de son visage fût entièrement changé. Au lieu de la plaie hideuse que je venais de voir, je trouvai une surface encore rouge, à la vérité, il admet, mais sèche et comme recouverte d'un épiderme de nouvelle formation. Étrange. Il ajoute les linges qui avaient servi de pansement avant son entrée dans la piscine, était à côté d'elle et tout maculé de pus. Cette pauvre infirme avait aussi, avant le bain, une plaie, de même nature à une jambe, je vous l'avais dit tout à l'heure, et cette plaie, comme celle du visage, avait été séchée dans la piscine. Je vous avoue en toute sincérité que je fus très vivement impressionné par ce changement si subit, déterminé par une simple immersion dans l'eau froide, étant donné, comme vous le savez, que le lupus est une affection très rebelle à toute espèce de médicamentation. Alors le docteur Dombre, qui a écrit ça, littéralement bouleversé, il demande alors à Marie le Marchand, la miraculée, de bien vouloir venir avec lui jusqu'au bureau des constatations. Il se trouve que le bureau est précisément encombré de médecins, d'écrivains, de journalistes, qui papillonne autour d'Émile Zola. Émile Zola, c'est le Michel Tremblay de l'époque. Non, soyons sérieux. Et Zola perd contenance. Le docteur Boissary l'invite à constater cette guérison. Mais l'écrivain se trouble, il recule. Puis, il se ressaisit. Là, il plaisante. Il dit, la regardez. Ah non, elle est encore trop laide. Oh, quel imbécile, hein? Pourtant, Zola va reconnaître finalement que Marie le Marchand a bel et bien été guérie, hein? Et puis, il raconte dans son livre toutes sortes de choses avec des faussetés. En somme, Émile Zola s'inscrit tout simplement en faux contre les déclarations des médecins, qui en savaient tout de même un peu plus long que lui sur la médecine, tel le docteur Dombre, dont je viens de vous lire le témoignage, puis le docteur Lanéel de Caen, qui y avait traité, lui, Marie le Marchand, et a déposé devant le bureau médical en disant « Je suis encore tout ému d'avoir pu toucher du doigt cette guérison absolument surnaturelle. Marie le Marchand avait encore une tuberculose avancée qui ne m'avait laissé aucun doute et dont je ne trouve plus aucune trace. » Si pour faire plaisir à M. Zola, bon, on peut admettre le caractère nerveux d'un lupus, pourtant tuberculé. On se demande d'ailleurs bien comment on pourrait l'admettre, mais en tous les cas. Son explication n'est d'ailleurs pas valable à Zola, parce qu'il explique ça dans son livre avec toutes sortes d'entourloupettes. Parce que c'est pas valable pour les cavernes tuberculeuses et pour la présence des bacilles de Koch dans les crachats de la malade. Ça, c'est pas possible. Marie le Marchand, pendant 40 années, il va revenir au pèlerinage de Lourdes pendant 40 ans. Imaginez, jusqu'au moment de la guerre à peu près. Elle aura 5 enfants. Elle ne portera plus la moindre cicatrice au visage, ce qui déjà constitue en soi un très beau miracle. Et elle mourra de sa belle mort en 1931, presque âgée de 70 ans. Elle lira le lourde de Zola, pas se contenter d'en rire. L'autre femme, c'est Marie le Branchu, que Zola a baptisé la Grivotte, lui, dans son roman. Il l'envoie cette fois proprement au tombeau. C'est elle qui fait mourir, avec 30 années d'avance sur l'horaire prévu. Elle est morte, en fait, 30 ans plus tard. Avec la Grivotte, Zola dépassait les limites de la décence intellectuelle. Il était malhonnête. Malhonnête. Pas possible. Comme tant de gens qui veulent pas voir ce qui se passe dans les miracles de l'Église, comment se fait-il qu'ils ne veulent pas voir? D'où vient cette négation intérieure qui est très loin de celle de Carrel qui a accepté de voir? C'est un mystère à mes yeux, moi. Il a été malhonnête, Zola. Malhonnête. Marie Lambranchu, ce serait porter partie civile s'il avait fallu que l'évêque de Tarbes et de Lourdes poursuivre Zola en justice pour diffamation. Mais la malhonnêteté est double chez Zola, car sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris, quelques instants avant le départ pour Lourdes, Émile Zola, imaginé, s'était penché sur le brancard de Marie le Branchu. À Paris même, là, à la gare d'Austerlitz, il avait dit « Si celle-là guérit à Lourdes, alors je croirai. » Ben, il l'a vu, puis il a pas cru. Elle a guéri. Et Zola s'est permis de la tuer dans son livre. Sans doute par cette pirouette, s'est-il cru dégagé de sa promesse, puisqu'elle était morte. C'est épouvantable. La signification de cette espèce de pirouette littéraire est beaucoup plus profonde, même qu'elle n'en a l'air. Un Zola était littéralement obsédé par cette guérison. Il n'a pas pu la passer sous silence. L'aurait-il voulu, me semble, que sa conscience lui aurait interdit. Il a vu un miracle, il l'a vu. Et comme c'est un cauchemar pour lui. Il a vu, puis il a refusé d'y croire. Avec Zola, c'est un des grands écrivains du 19e siècle, des jeunes qui m'écoutent, comme je vous l'ai signalé dans une lettre hier que je vous ai lue en ondes, des jeunes qui étudient ces œuvres-là, ou du moins qui étudient la littérature du 19e siècle, connaissent Zola. Et des gens de mon âge ont lu Zola souvent quand ils étaient jeunes, un peu, c'était défendu, en principe, mais on lisait quand même parce que c'est assez beau quand même. Alors, il a transposé, Zola, ce qu'il aurait voulu voir, c'est-à-dire cette femme. Il voulait la voir mourir à son retour à Paris. Pourtant, il a dit, si celle-là guérit, je croirai. Zola a dit cela très vite sur le quai de la gare. Puis il s'est reculé, car le spectacle qu'offre Marie le Branchu est tout simplement effrayant. Elle pèse à peine 30 kilos. C'est pas beaucoup, hein? Disons, 65 livres. Elle a 35 ans. Son visage fait penser à une tête de mort, sur laquelle on aurait tendu un mince parchemin blafard, rehaussé de touches légèrement rosées sur les pommettes saillantes. On a des photos de ça. Elle est rongée par la fièvre. Ses yeux, on le voit sur la photo, sont immenses, occupent presque tout le visage. Et sur ses lèvres minces, on devine les saillies puis les dents. Ben, dans son livre, Zola en parle, il dit que... Elle lui a dit, « J'ai un poumon perdu. Des cavernes, vous savez. J'ai maigri, j'ai maigri. Une vraie pitié, je suis toujours en sueur. Je touche à m'arracher le cœur. Je ne puis plus cracher tant c'est épais. Je ne tiens pas debout, je ne mange pas. » Puis, il raconte tout ça. Dans les registres du bureau de Lourdes, à la date du 22 août 1892, celle que Zola appelle la Grivotte a été inscrite sous son vrai nom. Marie le Branchu, âgée de 35 ans, Paris, rue Championnet, numéro 172, est atteinte, d'après le certificat du docteur Marchesi, médecin de l'hospice, d'une tuberculose pulmonaire, avec ramollissement et cavernes. Son père et sa mère sont morts poitrinaires. On ajoute toutes sortes de détails. Elle reste constamment au lit, vomissant du sang. Elle a perdu 48 livres et remplit son crachoir de pu. Terrible. On ajoute qu'elle ne garde du reste aucune nourriture, c'est la phtisie à la dernière période. Et cette fois, Zola sert la vérité de très près. Il reconnaît l'authenticité de la maladie. Puis, le jour de son arrivée à Lourdes, Marie le Branchu, sans attendre d'être conduite à l'hospice, demande à être baignée aux piscines de la grotte de Massabielle, comme on l'appelle. Puis là, le docteur Boissary, dont je vous ai parlé tout à l'heure, président du comité d'enquête, signe comme à regret son bulletin qui autorise parce qu'il a peur qu'elle meure dans la piscine. L'eau de la grotte sort, là, à moins de 10 degrés centigrades. Le choc peut être funeste, mais Marie Lebranchu se fait tellement pressante, elle a tellement hâte, elle est animée d'une telle foi que le médecin a cédé à ses supplications, puis deux brancardiers la soutiennent par les épaules. Leur tâche n'est pas bien pénible, hein? Le corps est léger, léger, très léger. Hein? Eux, ils sont forts. Et Marie Lebranchu se tord de douleur dans l'eau glaciale. Elle a un spasme terrible, comme une dernière confusion. On pense qu'elle va mourir, mais presque instantanément, je dis bien presque instantanément, elle repousse ses brancardiers des deux mains, se redresse toute seule dans la piscine, marche, sort de l'eau en entonnant un Ave Maria, qui donne le frisson à l'assistance. On la frictionne, on l'habille, sans aucune aide. Elle refuse le fauteuil à roulettes, là, qu'on lui proposait. Elle se rend directement à la grotte où elle s'agenouille. Pendant une demi-heure, pour prier et remercier celle qui l'a sauvée. Alors seulement, elle se rend au bureau des constatations, et voici comment le docteur Boissary a rapporté cette scène au chanoine Belnay. J'arrivais avec Émile Zola. Devant l'écrivain, ahuri d'émotion, je fais entrer la miraculée. Plus de râle, plus rien. Tout est neuf dans ce poumon, tout à l'heure dévasté. Alors je dis à Zola, « Monsieur, voici guérie celle dont vous, que vous disiez mourante. Faites-la sculpter par qui vous voudrez. Il dira comme moi. » Étrange, mais Émile Zola ne parle jamais de l'entrevue dans son livre avec le docteur Boissary. Il fait le récit fidèle de la guérison de la grisotte, il l'enjolive même, mais il finit par le nier, et pour brouiller sans doute un peu les pistes, Zola se lance dans des explications fumeuses et insensées. Que c'est triste de lutter ainsi contre des vérités pourtant évidentes. Pour ceux qui sont intéressés aux questions d'histoire et de sociologie, vous pourrez lire aux éditions Gallimard, il y a un immense bouquin d'Alphonse Dupron intitulé « Du sacré ». Il parle des croisades, des pèlerinages, des images et des langages. C'est dans la bibliothèque des histoires. C'est des ouvrages très savants. Puis, il y a toute une section sur Lourdes, perspective d'une sociologie du sacré. Ça pourra vous intéresser, c'est intéressant pour ceux qui sont très versés dans ces questions-là. Mais par contre, je voudrais revenir à Alexis Carrel. Pouvez-vous peut-être vous demander qu'est-ce qui s'est produit? J'ai raconté ça il y a déjà si longtemps. Je vous en fais un résumé très bref. C'est en 1903, donc quelques années après Zola. Il était âgé de 30 ans, docteur en médecine, professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Lyon. Alexis Carrel accepte d'accompagner à Lourdes un train de malades. C'est une corvée pour lui. Il dit que ça l'ennuie. Mais il s'agit de remplacer un collègue qui est empêché. Puis comme il estime ce collègue, il veut lui rendre service, alors il part, à reculons. Moi, la première fois que je suis allé à Lourdes, c'est un peu à reculons. J'étais dans la région, je voulais entrer, j'avais 24 ans, à l'abbaye dans Calcate, qui est dans cette région-là. Puis je me suis dit, je fais aussi bien d'aller voir ce que c'est que Lourdes, j'en aurai le cœur net, puisque je serai enfermé pour le restant de mes jours. Et j'étais émerveillé par Lourdes. Allez-y, n'hésitez pas. Dans le sud de la France, direction de l'Espagne, là. Quelque chose à voir. Alors, Carrel est de mauvaise humeur, lui. Il ne veut pas aller là, mais quand même, il est heureux de prendre au vol une espèce d'occasion de critiquer de plus près. Hein. Son attention est attirée par une malade. C'est une jeune agonisante. Elle s'appelle Marie Ferrand. De son vrai nom, Marie Bailly, dont je vous ai déjà parlé. Elle est atteinte de quoi? D'une péritonite tuberculeuse au dernier stade. Et ses parents sont morts tuberculés. Les chirurgiens ont abandonné cette patiente, puis ils ont refusé de l'opérer. Alors Alexis Carrel examine de près la mourante. Puis il confirme pleinement le diagnostic de ses confrères, puis déclare à son ami, dont les initiales sont AB, on n'ose pas donner son nom, « Je crains qu'elle ne meure entre mes doigts. Puis fait comme Zola tout à l'heure, n'y prendra pas la même tangente. Il dit, si celle-là guérissait, ce serait vraiment un miracle, je croirais à tout et je me ferais moine. Soyez sans crainte, il se fera pas moine. Soudain, il se croit halluciné. Sous ses yeux, la mourante ressuscite. Ses traits se colorent, le pouls devient normal. Le ventre, extraordinairement ballonné de la malade, diminue peu à peu de volume sous ses yeux. Avec son stylo, Carrel note l'heure exacte sur sa manchette. Hein, les médecins ont des manchettes à l'époque. Là. Il note 2h40. 20 minutes plus tard, à 3h, la résurrection est un fait accompli. 20 minutes. Et Marie Ferrand déclare, « Je suis guérie. » Alors on lui donne une tasse de lait. La douleur, la tuméfaction ont disparu. Alors Alexis Carrel se trouve en face d'une mourante redevenue normale, seulement affaiblie, disons. Une heure plus tard, il est 4h, quoi. Carrel écrit, « C'était la chose impossible, c'était la chose inattendue, c'était le miracle qui venait de se produire. » À la fois heureux et ennuyé de l'aventure, Carrel, après avoir erré là, dans la nuit, c'est plus où aller, il pénètre dans la basilique. Il s'assoit à côté d'un vieux paysan. Puis la tête dans les mains, ce grand médecin de 30 ans, qui enseigne à la faculté de Lyon, la faculté de médecine, il prononce cette prière. Si vous voulez bien ensemble, ceux qui croient, qui m'écoutent, prions ensemble. Vierge douce, secourable aux malheureux qui vous implorent humblement, gardez-moi. Je crois en vous. Vous avez voulu répondre à mon doute par un miracle éclatant. Je ne sais pas le voir et je doute encore. Mais mon plus grand désir et le but supérieur de toutes mes aspirations est de croire. Mais aucun miracle, même s'il se passe sous nos yeux, les pharisiens en ont vu, autant que les apôtres. C'est saint Augustin qui dit ça pourtant, puis les pharisiens ne se sont pas convertis. Ça n'a donné aucune foi à ces pharisiens, la plupart, j'imagine. Alors Carrel, lui, va chercher presque toute sa vie la plénitude. Il devient ami de Don Alexis. Vous savez, Don Alexis, il faudrait bien que je vous en parle peut-être un jour, le restaurateur de Bocken. C'est une vie un peu tragique. Carrel prend ses vacances dans l'île proche, tout près, là. Ça va l'aider beaucoup. Âgé 65 ans, parvenu au sommet de sa carrière scientifique, il est à peu près consentant à prononcer le credo de son enfance. Je redis à peu près, car il n'a pas encore compris complètement la nécessité de ce que nous appelons la pratique religieuse. Carrel s'est étrangement converti sans pratiquer. Mais il prie. C'est déjà ça. Il dit que chaque minute de ma vie soit consacrée à votre Seigneur, à votre grandeur, Seigneur. Dans l'obscurité où je trébuche, je vous cherche sans fin. Je vous cherche sans fin. Puis, à Noël 1939, il écrit « Oh mon Dieu, combien je regrette de n'avoir pas compris. » Et d'avoir essayé de comprendre des choses qu'il est inutile d'essayer de comprendre. La vie ne consiste pas à comprendre, mais à aimer. Et à aimer les autres, à prier, à travailler. Faites, mon Dieu, qu'il ne soit pas trop tard. Faites que la dernière page de mon livre, du livre de ma vie, ne soit pas encore tournée. Qu'un autre chapitre puisse être ajouté à ce mauvais livre. Parlez, mon Dieu, car votre indigne serviteur écoute. Il vous offre ce qui lui reste. Il vous fait le sacrifice volontaire de sa vie, comme de sa prière. Il vous demande de le mener dans la vraie voie, la voie des simples et des gens purs et simples, de ceux qui aiment et qui prient. Pardonnez-moi toutes les fautes de ma vie. À lui qui est si complètement ignorant, à moi donc, Seigneur, donnez la grâce et la lumière. Ô mon Dieu, dans ce jour qui commémore la naissance de votre Fils, je fais en vous l'abandon total de moi-même, avec le regret profond d'avoir passé comme un aveugle à travers la vie. quand on l'avait dit qu'il était temps de recevoir les derniers sacrements, il se concentre, il reçoit la Sainte Eucharistie puis l'extrême-onction. Il le fait avec la simplicité d'un enfant, nous a raconté Monseigneur Amaillon, qui lui a conféré ses sacrements. Et après avoir ainsi entièrement retrouvé la foi et la pratique de sa jeunesse, il est mort à Paris le 4 novembre 1944, à l'âge de 71 ans, le docteur Alexis Carrel. Et selon sa volonté, il est enterré, enseveli, dans sa chapelle de Saint-Gildas. Comme quoi, il y en a qui prennent beaucoup de temps à comprendre, mais qui finissent par comprendre. Puis il y en a d'autres qui comprennent d'un seul coup, comme le père Aroupé, dont je vous ai parlé. Si vous voulez lire un beau livre sur Sainte Bernadette Soubirous et l'affaire Sainte Bernadette Soubirous, si vous aimez les procès, vous savez, les grands procès, on en a eu à la télévision, c'était la mode pendant un certain temps. Si vous aimez des choses où on raconte de façon claire tout ce qui s'est passé en 1950, en 1858, il y a 140 ans, ben, achetez ce livre publié par les Pères de Saint-Paul et les Sœurs de Saint-Paul, c'est publié par Médiapol. L'affaire Bernadette Soubirous, c'est publié il y a quelques mois. C'est un ouvrage de Jean-Paul Lefebvre-Fillot. Aucun lien avec le Jean-Paul Lefebvre du Québec, là. C'est Jean-Paul Lefebvre-Fillot, F-I-2-L-E-A-U, qui est un homme sérieux qui a écrit ça. C'est passionnant à lire, c'est comme un procès. Puis il raconte au dos du livre, « Écoute-moi bien, si à l'instant tu ne prends pas l'engagement de ne plus retourner à la grotte de Massabielle, j'envoie chercher les gendarmes et je te fais mettre en prison, Bernadette. » Et elle dit, « Tant mieux. Je coûterai moins cher à mon père et vous viendrez m'apprendre mon catéchisme. » C'est ce qu'elle répond au curé qui la menace. C'est un très beau livre avec une préface de Paul Guth. L'affaire Bernadette Soubirous de Jean-Paul Lefebvre-Fillot chez Médiapol. Demain, il sera question, oh, ça va être beau demain, vous allez aimer ça, Laurent de la Résurrection, qui était frère Carme à Paris, qui est mort en 1691, c'est lui qui a écrit ce beau livre de spiritualité, L'expérience de la présence de Dieu, un très très beau livre qui m'accompagne depuis mon adolescence, je vous le recommande, L'expérience de la présence de Dieu.